Bon, j'ai reçu
un nombre raisonnable de questions. Je pense que nous allons pouvoir passer un moment utile ensemble, sans que cela nous mène jusqu'à demain matin. J'ai essayé de casser un peu les questions reçues. J'ai d'abord plusieurs questions qui tournent autour de la question de Satan. Une question s'énonce de cette manière, après une parole gentille. Mais où est passé Satan comme personnage ayant contribué au mal? Vous ne l'avez pas nommé, pourquoi pas? Une autre question, est-ce que je me trompe en pensant que Satan est la source du mal? Et encore une double question, le mal est-il apparu au moment de la chute? Qu'en était-il dès lors avant? Le diable ferait-il donc partie de la création de Dieu? Pourquoi n'ai-je pas davantage parlé du diable? Je l'ai quand même mentionné lorsque j'ai évoqué Job et les assauts menés contre Job. C'est parce qu'il me semble que l'intervention du diable, que j'affirme, ne fait que compliquer un tout petit peu la présentation du problème sans changer radicalement ses données. Quant à la grande question « Pourquoi Dieu souverain et bon permet-il le mal ?» Quant à la question du mal comme écharde pour la raison, je dis que l'intervention de Satan ne change rien, qu'elle ne fait que reculer le problème d'un cran. Et on le retrouve exactement semblable à la position qu'on a lorsqu'on considère seulement l'homme. D'après le témoignage de l'Écriture, l'humanité originelle a choisi le mal, a fait le mal à l'instigation de Satan. Donc elle n'a pas été la première à pratiquer le mal et à faire le mauvais choix. Mais je dis que cela ne nous aide pas quant à la solution de la question pourquoi de l'intégration rationnelle de l'expérience du mal, parce que la chute de Satan lui-même alors devient le problème mystérieux à résoudre. Et comme la Bible en dit beaucoup moins qu'elle n'en dit sur la chute de l'homme, je pense que je pouvais m'abstenir d'en parler de manière développée. Mais enfin maintenant, puisque je suis interrogé, je vais quand même donner quelques précisions. Donc je crois que la Bible enseigne clairement, et que c'est là la vérité même à recevoir, qu'effectivement, avant la chute de l'homme, la chute édénique, il y a eu déjà choix mauvais de la part d'un autre être qui reçoit dans l'Ancien Testament le nom de Satan, qui au départ est un nom commun, ça veut dire celui qui s'oppose en justice, l'accusateur d'abord, c'est le Satan. Lequel terme a été traduit diabolos en grec avec un sens à peu près semblable, de telle sorte que nous avons deux termes d'usage fréquent, Satan et diable maintenant, qui est la simple francisation de diabolos en français. Et puis le Nouveau Testament a rajouté d'autres titres qui étaient en usage dans le judaïsme de son époque, mais qui ne le sont pas dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible. Comme par exemple Béelzébul, ou le prince de la puissance de l'air, ou le prince de ce siècle par exemple, ou le malin, c'est-à-dire celui qui est mauvais de manière suprême parmi les créatures. Alors ce Satan qui a tenté le premier homme ou le premier couple, bon, je ne pense pas que son intervention résolve le problème de l'origine du mal pour notre raison, à deux égards. D'abord, l'homme et la femme n'avaient aucune raison de céder à sa tentation. Sa tentation leur venait purement et simplement de l'extérieur. Ils étaient dans l'harmonie de Dieu, ils avaient toute la beauté du jardin comme leur environnement constant, ils conversaient régulièrement avec Dieu. Il n'y avait aucune faille dans leur constitution, aucune faiblesse, aucun germe dans leur nature qui explique qu'ils aient cédé au tentateur. Donc c'est une première considération qui montre qu'on ne donne pas une explication rationnelle de la chute de l'homme lorsqu'on dit « mais il a été tenté par le diable ». Il a été tenté, mais pourquoi est-il tombé? C'est là le problème. Or, il n'avait aucune raison de tomber. La deuxième considération, c'est que le diable lui-même est présenté dans l'Écriture comme une créature de Dieu. Ce n'est pas un dieu du mal. Oui, ce n'est pas un premier principe qui s'opposerait au premier principe bon que serait Dieu. La Bible n'adopte pas du tout le dualisme de la religion perse, où vous avez Hormuz, le seigneur sage d'un côté, et puis l'esprit mauvais, Ahriman, en face. Non, non, le diable n'est pas Ahriman. Le diable n'est pas un principe éternel. Le diable est une créature. Déjà, la figure qui le représente au chapitre 3 de la Genèse est soulignée comme le serpent parmi les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Et ensuite, le reste de la Bible nous dit bien que le diable est une créature, car il compte parmi les autorités, les principautés des lieux célestes révoltés contre Dieu. Donc, il nous est dit au chapitre 1er de l'Épître aux Colossiens que c'est en Christ que tous ces êtres ont été créés, en Christ comme Fils éternel, comme Verbe divin. Et l'Épître aux Romains au chapitre 8 dit aussi, après avoir parlé de toutes ces puissances spirituelles célestes dont le diable est la première, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, il compte parmi les créatures. Le diable est une créature. Or, une créature est forcément créée bonne, et entièrement bonne par Dieu. Ça, c'est un principe biblique intangible. Et nous l'avons énoncé, par exemple, dans la première épître à Timothée, au chapitre 4. Toute créature de Dieu est bonne. Puisqu'une créature procède de Dieu et de lui seul, c'est par sa parole qu'elle advient à l'être. Elle tire tout de lui, pas par émanation, mais par son libre vouloir. Venant de Dieu bon, elle ne peut être qu'entièrement bonne. Donc si le diable se manifeste dès le jardin d'Éden comme un malin, un être voué au mal, c'est contre sa création. Et ce moment-là, il a lui-même choisi le mal d'une façon aussi inexplicable et donc inexcusable qu'Adam lui-même est tombé. Qu'Adam et Ève eux-mêmes sont tombés. Donc on ne résout pas le problème en faisant intervenir le diable, on le recule d'un cran en quelque sorte, on montre qu'il y a une complication dans cette affaire. Je pense que cette complication a son importance aussi, hein. Je ne peux pas dire pour autant qu'à d'autres égards elle ne soit pas importante. Me semble-t-il, c'est parce que l'homme a péché en deuxième position, et malgré tout à l'instigation d'un autre, que son péché ne se porte pas au degré absolu d'emblée, que Dieu peut en retenir les conséquences, que l'homme, tout en étant esclave du péché, reste encore, en quelque sorte, disponible pour l'opération de salut de Dieu, qui va intervenir pour le racheter. Alors que pour le diable, il n'est pas question de rachat. Nous y reviendrons d'ailleurs avec une question ultérieure. Donc le diable est le premier en qui le mal soit apparu. Dans ce sens, il est la source du mal. Mais cela est aussi énigmatique d'une opacité mystérieuse, au moins égale à celle de la chute de l'humanité au début. Nous n'avons pas d'explication, parce qu'il a été créé, lui aussi, bon, d'une bonté excellente. Donc il est important de noter qu'il fait partie de la création de Dieu, que le mal a commencé dans les lieux célestes, avec lui, avant de commencer sur la terre. C'est par un homme que le mal est entré dans le monde, et le monde visible. Mais dans le monde céleste, ou dans la partie céleste du monde, elle est entrée par le diable. Il est entré par le diable, le péché, le mal. Avant la chute du diable, alors là, c'est là que je reviens à ce que j'ai essayé d'exprimer tout à l'heure, avant il n'y a pas de mal, ni de germe de mal. Rien, aucune même possibilité réelle de mal. Ça, c'est une thèse qu'on n'entend pas habituellement, mais que je crois nécessaire. L'idée de possible, c'est une idée ambiguë, qui peut suggérer une sorte de présence déjà. Le mal, à l'état de virus, de germe, pas encore développé, l'attend, mais quand même déjà là. C'est ce que j'appelle le possible réel. C'est une formule qu'on trouve, par exemple, chez Kierkegaard et chez d'autres penseurs. Or, je dis que si on parle de possibilité, en considérant que c'est déjà quelque chose qu'une possibilité, il faut exclure de la création de Dieu toute possibilité de mal. Bien sûr, on peut toujours dire abstraitement, s'il y a le bien, on peut penser l'inverse en disant mal, mais ce n'est pas une possibilité réelle, c'est une pure abstraction. Il n'y a rien qui ne soit autre, qui soit pure harmonie, comme venant de la bonté même de Dieu. Donc avant la chute de Satan, puisqu'on l'appelle chute en général, il n'y a aucun germe de mal, aucune préparation pour la venue du mal. Il n'y a qu'harmonie, et le mal est pur désordre, donc totalement inexplicable et inexcusable. Oui. C'est le Satan d'abord, et ensuite dans l'humanité. Voilà comment je crois pouvoir répondre aux questions qui ont été posées. Vous voyez pourquoi je n'en avais pas parlé. C'était pas compliqué, quelque chose qui était déjà assez. J'ai parlé assez longtemps, je pense. Mais maintenant, les choses devraient être claires. Alors, je viens à une autre question maintenant, une double question aussi. Peut-on imaginer que Dieu ignorait que l'homme commettrait le mal? Peut-on imaginer que Dieu savait que l'homme serait esclave du mal? Le verdict de la Bible me semble là parfaitement net. Il n'est pas question d'imaginer que Dieu ignorait. Et il faut affirmer que Dieu savait très bien, oui, tout. Et que non seulement il savait, en vertu de sa préscience, mais que c'est son plan même. C'est ça qui rend le problème une épine, une écharde pour notre raison. Si Dieu n'était pas parfaitement aux commandes, si Dieu était obligé de lâcher quelque chose, alors on dirait, bon, ben c'est pour ça, il est obligé de lâcher. Mais le témoignage de la Bible, c'est que le Dieu parfaitement bon, qui est le mal, et le mal se définit, j'y reviendrai tout à l'heure, par l'opposition à Dieu, là, ce qui est dissemblable de Dieu, que ce Dieu-là, dans sa souveraineté, permette le mal. Alors, moi je ne le comprends pas, je ne peux pas le comprendre. Mais c'est ce qui me permet aussi d'espérer, avec une pleine assurance, que le mal sera totalement éliminé. Oui. Dieu me l'ayant promis. Oui. Alors, que Dieu savait, mais bien sûr, il nous a dit que nous avons été élus pour le salut en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde. Donc, Dieu n'est pas pris au dépourvu, Dieu ne travaille pas à l'improviste. Non, 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 ça c'est clair. Mais comment alors joindre avec sa bonté? Ça, c'est ce que nous ne comprenons pas. Je ne prétends nullement vous donner une solution facile au problème qui a torturé tant de ménages et de cœurs. Non, pas du tout. Mais je crois pouvoir discerner que devant la croix de Jésus-Christ, nous ne pouvons mettre en doute ni la souveraineté de Dieu, que c'est vraiment son plan qui s'accomplit, ni sa pure bonté, ni la réalité du mal. Si à la croix, le mal a été vaincu, alors se pose une autre question que je n'ai pas traitée tout à l'heure, je le reconnais. Une question que j'ai sous les yeux évoque deux passages bibliques qui soulignent très fort que la victoire a été remportée sur le mal. Le passage de l'Épître aux Éphésiens, au premier chapitre, les versets 20 à 22, où il est dit que Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes ses autorités et puissances, du diable et de toutes ses troupes révoltées, qu'il les domine, qu'elles sont sous ses pieds. Et l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, versets 13 à 15, souligne qu'à la croix, Jésus-Christ a livré publiquement en spectacle qu'il a dépouillé de leur puissance tous ces êtres hostiles. Alors la question se lit, Jésus a vaincu tout le mal depuis la croix, et toutes les principautés lui sont soumises, toutes les forces du mal sont sous ses pieds. Quelle explication peut-on donner pour comprendre l'existence et la force du mal encore évidente jusqu'à ce jour? Que dire de cette réalité en rapport à l'ordre des choses en fonction de la fin des temps? C'est effectivement une question difficile où il ne me semble pas qu'il suffise de dire c'est toujours ce mystère opaque, c'est toujours cette même difficulté sur laquelle nous butons. Parce que là, c'est quand même un peu autre chose. C'est le fait que la victoire ayant été remportée, elle se voit si peu. Je peux résumer un petit peu la formule comme ça. Il me semble que plusieurs solutions à ce problème sont des solutions qui ne jouent pas. La solution qui voudrait que Jésus se soit trompé, que la fin des temps prévue comme élimination immédiate ait été reportée pour d'autres raisons, parce que le peuple juif en particulier avait refusé son Messie. Ces solutions ne me semblent pas des solutions satisfaisantes du problème. Quelle solution ? Je crois que la solution que la Bible suggère, c'est que le temps dans lequel nous sommes, dans le plan de Dieu, l'économie, dispensation, comme vous voulez l'appeler, est le temps de la patience pour le salut de ceux qui doivent bénéficier de la libération opérée par Jésus-Christ. C'est quelque chose qui me semble être vraiment très clairement marqué dans plusieurs passages du Nouveau Testament que j'évoque rapidement. Il y a le passage que je viens d'évoquer par le langage même que j'ai employé de la seconde épître de Pierre au chapitre 3, où il est question de ce délai. La fin du monde n'arrive pas, ce qui sera l'élimination du mal. Alors il y a des gens qui vont ricanant, disant, mais hey, où est la promesse de son avènement? Et Pierre explique très clairement que c'est à cause de la patience de Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, pour donner un maximum de chances de recevoir le salut offert, que Dieu laisse le temps s'écouler. C'est sa patience, la patience de Dieu est votre salut, dit le texte. Et d'ailleurs, Pierre suggère que nous pouvons non seulement attendre, mais hâter le jour. Il ne dit pas comment, précisément dans ce passage, mais on peut comprendre que si ce temps est prévu par Dieu pour que ceux qui doivent saisir le salut le saisissent, alors c'est en rendant témoignage de façon plus zélée, en multipliant les actions missionnaires, que nous hâtons la venue du jour où tout sera résolu. Alors il y a ce passage donc. Il y a le passage dans l'Apocalypse où nous lisons, c'est au chapitre 7 je crois, attendez, non, c'est chapitre 6, donc je vérifie, où nous voyons les âmes des chrétiens, des témoins fidèles du Seigneur, qui se trouvent dans le temps présent, au ciel. Ils sont représentés comme sous l'autel céleste, et qui demandent au Seigneur de mettre fin à cette période qui s'allonge, qui ne s'éternise pas, mais qui quand même s'allonge et se prolonge. En disant, mais jusqu'à quand? Oui, jusqu'à quand vas-tu attendre cela? Chapitre 6, en effet. Il criait d'une voix forte, verset 10, Seigneur saint et véritable, jusqu'à quand attendras-tu pour juger les habitants de la terre et les punir de nous avoir mis à mort? On donna à chacun d'eux, dit Jean, parce qu'il voit ça, n'est-ce pas, dans sa vision spirituelle, on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs frères et compagnons de service, qui devaient être mis à mort comme ils avaient été eux-mêmes. Il faut que tous ceux qui doivent devenir témoins du Seigneur dans le cours de l'histoire, leur nombre complet soit atteint pour que l'histoire puisse atteindre son terme. Là, le rapport est là clairement énoncé. Et il y a aussi le passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, où Jésus-Christ annonçant la venue de la fin, et en avertissant ses disciples d'ailleurs, que ce ne sera pas tout de suite la fin, que ce ne sera que le commencement des douleurs quand il y aura des guerres, des persécutions, etc. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Leur dit, la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Jésus semble bien, dans ce passage, faire un rapport entre cette espèce de report, de retard, de la fin qu'on attendrait toute proche puisque la victoire est acquise. Et le travail missionnaire qui doit permettre aux humains de saisir, si se tournent dans la foi vers Dieu, le salut qui est offert, c'est-à-dire la libération du mal. Donc il y a plusieurs passages qui nous montrent que si un temps où la victoire n'est pas manifestée se prolonge, c'est pour que l'évangélisation du monde puisse continuer à avoir son effet. Mais alors il faut essayer de réfléchir théologiquement à propos de ce qui est ici enseigné. Qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que cela veut dire que Dieu ne veut pas sauver automatiquement. Dieu, parce qu'il veut instaurer un rapport spirituel de réconciliation de fils à père avec lui, fils-fille à père avec lui, ne veut pas dire, à partir du moment où Jésus-Christ a remporté cette victoire, tous les hommes sont sauvés automatiquement. Ce n'est pas comme ça que veut procéder Dieu. Il veut que ce soit une réponse personnelle par laquelle l'homme se détourne du mal comme il s'y était engagé, et lui dise oui, grâce à Jésus-Christ, c'est de cette façon que Dieu veut que l'homme accède à la libération du mal. Or, cela ne se peut que si le vieux monde continue d'exister, que si les conditions extérieures ne sont pas d'un coup renouvelées et restaurées. Si d'un seul coup ce monde pourri en quelque sorte était rénové, il y aurait contrainte, il n'y aurait plus ce mouvement que Dieu veut de ceux qui doivent se joindre à son Fils pour bénéficier du salut. Donc il y a un sursis au vieux monde et au vieux régime d'existence de l'humanité pour que l'évangélisation puisse s'y déployer et que tous ceux qui croiront soient sauvés. Alors en ce qui concerne les puissances qui sont vaincues, je pense qu'on peut dire que la représentation biblique pour ce temps-là, c'est qu'étant radicalement vaincus, dépouillés de leur moyen d'action dans le principe, elles ne sont pas d'un seul coup réduites à une totale inaction. Mais que Dieu, ou Jésus-Christ, de manière progressive, les met sous ses pieds. Car il y a plusieurs passages qui suggèrent que le temps qui commence à l'ascension, donc qui est la conséquence de la victoire de la croix, est le temps où Dieu met sous les pieds de son Messie tous ses ennemis en les dépouillant successivement en quelque sorte. C'est une œuvre qui se déploie progressivement. Cela je le tire surtout de la première épître aux Corinthiens ou du chapitre 15 où Paul tire de cela l'argument de la résurrection finale en disant le dernier ennemi qui sera ainsi vaincu et mis sous les pieds, c'est la mort. Alors là, ce sera la résurrection. La victoire sur la mort, c'est la résurrection. Donc, dans son règne militant, son règne conquérant sur la base de la victoire de la croix, Jésus-Christ dépouille en quelque sorte progressivement de leur puissance ses adversaires. Ils sont vaincus dans le principe, mais ils ne sont pas rendus totalement inactifs d'emblée. Et pourquoi cela? Alors là, je ne suis pas en mesure de le clarifier peut-être parfaitement. En tout cas, je ne vois pas une réponse parfaitement claire dans l'Écriture. Mais je pense que c'est en liaison avec ce sursis donné au vieux monde comme le lieu nécessaire de l'évangélisation. Comme l'action de ces puissances est très liée au vieux monde, qu'en particulier il semble que ces puissances aient une action dans les coulisses de l'histoire, dans la destinée des nations par exemple, on voit ça déjà dans le livre de Daniel, je pense que le fait que les puissances et dominations vaincues ne soient pas anéanties d'un coup est lié au fait que le vieux monde doit subsister encore un temps pour que l'évangélisation y ait lieu. Voilà la courte explication, parce que je fais court encore, et même si vous avez l'impression que je fais long, à cette grande question qui m'a été posée. Et alors, une question se joint tout de suite. Avez-vous une interprétation de la fin que Dieu réserve pour le mal? Les textes bibliques sont assez obscurs à ce sujet. Sont-ils vraiment obscurs? Je pense qu'il y a certains éléments qui sont très clairs. Et que d'autres éléments restent effectivement mystérieux, obscurs. Ce qui est très clair, me semble-t-il, c'est que Dieu châtiera ceux qui ont choisi le mal et qui ne se sont pas tournés vers Jésus-Christ. Et qu'il châtiera avec eux ces êtres spirituels qui auront dans les coulisses inspiré leur révolte, accru encore leur perversion. Puisqu'il nous est dit que le diable lui-même sera jeté dans ce lac ardent brûlant de feu et de soufre. C'est un rappel du châtiment de Sodome. Hein. Dans ce lac ardent de feu et de soufre qu'est le châtiment éternel. Le diable lui-même, avec, dans le langage de l'Apocalypse, la bête et le faux prophète, c'est-à-dire les personnages qui sont ces instruments de choix au moment du paroxysme de ces efforts d'hostilité. Donc, en ce qui concerne les hommes et les vieux diables et les démons, je pense qu'il est clair qu'ils subissent un châtiment qui est appelé châtiment éternel future. La deuxième chose qui me paraît parfaitement claire, c'est que le mal, lui, est aboli, qu'il ne se commet plus, qu'il n'y a plus aucune trace de mal qui subsiste. Car le châtiment n'est pas un mal, le châtiment c'est le redressement, c'est la satisfaction de la justice, c'est le retour à l'ordre de ce qui était désordre. Donc, ce châtiment n'est pas un mal, c'est l'élimination du mal même, touchant les responsables, qui portent leurs responsabilités. Je pense que cela aussi doit être affirmé, et c'est pourquoi nous avons des formules qui montrent que la victoire est totale, que par la croix, qui est la victoire, qui sera manifestée lorsque le Seigneur Jésus reviendra, tous les êtres, y compris les démons, ont été réconciliés. Pas réconciliés dans le sens qu'ils ont maintenant part au salut, mais dans le sens qu'ils sont remis dans l'ordre. C'est ce que dit, n'est-ce pas, l'Épître aux Colossiens, au premier chapitre. Là, elle est extrêmement forte, et parfois certains chrétiens lisent ces versets sans bien les comprendre. Il a réconcilié, Dieu a établi la paix par la mort de son Fils à la croix, et a ainsi réconcilié toutes choses avec lui, soit sur la terre, soit dans les cieux. Toutes choses ou tous les êtres. On peut traduire comme on veut sur ce point, par rapport à l'original en grec. C'est le verset 20, donc, de ce passage. Oui, c'est une victoire totale que celle que remporte le Seigneur, et plus aucun mal ne subsiste et ne se commet. Alors ça, c'est, me semble-t-il, aussi tout à fait certain. À partir de là, j'avance une troisième thèse que, curieusement, peu de gens ont émise et qui, pourtant, me semble une conséquence de cette deuxième. Mais, étrangement, ça ne correspond pas aux représentations que beaucoup de gens se sont faites. Cela veut dire que ceux-mêmes qui seront punis lors du châtiment approuveront leur châtiment, ne désireront rien d'autre que de subir ce châtiment. Parce que si les hommes condamnés, et le diable même, grinçaient des dents contre Dieu, cela voudrait dire un péché qui continuerait de se commettre, qui aurait du mal, qui se produirait perpétuellement et reproduirait. Donc il n'y aurait pas réconciliation dans le sens de remise en ordre de tous les êtres. Il n'y aurait pas toute langue confesse, pour prendre une autre parole de la Bible, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le fait que le mal soit entièrement vaincu, comme la Bible l'affirme, signifie que ceux qui auront sur eux la responsabilité d'un mal qu'ils auront commis sur terre, ou dans les lieux célestes, et dont ils ne se seront pas repentis, dans se voyant enfin comme Dieu les voit en vérité, ne pourront qu'approuver leur jugement, ne pourront que dire oui, c'est ce que j'ai mérité, et je suis dans l'ordre de Dieu en le subissant, et je ne peux désirer autre chose. Moi, il me semble que c'est une conséquence nécessaire de ce que la Bible révèle à cet égard, et que ça change beaucoup nos représentations, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que l'enfer est un lieu de révolte contre Dieu, perpétuelle, de haine, par exemple, continuellement entretenue. Mais la Bible ne le dit nulle part, nulle part. Souvent, on rajoute d'ailleurs le diable comme une espèce de dieu des enfers, mais pas du tout. L'enfer, si on veut employer ce terme, est un châtiment infligé au diable dans le texte biblique. Il y est jeté comme châtié. Alors comment comprendre ces grincements de dents, ces pleurs et grincements de dents dont il est question? C'est pas des pleurs et grincements de dents contre Dieu, ce sont ceux, me semble-t-il, du remords. Ils se voient tels qu'ils sont, et ils jugent leur propre péché à la lumière de Dieu comme horrible, et ils savent qu'ils l'ont commis. Et c'est cela leur pleurs et grincements de dents, du remords. Oui. Alors j'ajoute encore un élément qui me paraît s'imposer. C'est un état fixe. Là, je ne vais pas développer parce que ça nous écarte un peu du sujet, mais quand même, je le mentionne. Là encore, pour les représentations, c'est important. Je crois que c'est un état qui dure, d'après la Bible. Mais c'est la mort. C'est la seconde mort, c'est la mort. C'est un état de mort. Or, une des composantes de la notion de mort dans la Bible, c'est qu'il n'y a pas de renouvellement, qu'il n'y a pas de, d'activité. S'ils sont morts, ben, c'est pas une survie, même dans la souffrance. Ils sont morts dans la souffrance. Ça ne veut pas dire inconscient, parce que la mort, ce n'est pas l'inexistence. Mais, me semble-t-il, ça veut dire fixité. Si vous voulez une image, mais c'est une pauvre image, bien sûr, mais le film s'arrête. Et vous n'avez plus sur l'écran qu'une seule image fixe. C'est l'image finale. Après avoir vécu, la dernière image, c'est comment il se voit dans la lumière de Dieu. Il se voit dans l'horrible culpabilité où ils se sont mis, et ils en ont le remords. C'est là la souffrance, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres étapes, voyez. C'est cette vue qui est là, finale. Voilà, me semble-t-il, comment... Bon, je ne dis pas que je cerne toute la doctrine comme ça, mais je suggère que c'est une façon de comprendre la fin du mal. Pour ceux qui ont commis le mal. Alors, pour ceux qui ont commis le mal, mais se sont réfugiés en Jésus-Christ, ont reçu de lui la libération du mal, en mettant leur confiance en lui, en s'attachant à lui. C'est ça ce que la Bible appelle la foi, la conversion. Pour cela, alors, la fin du mal, eh bien, elle s'exprime par tout ce qui est présenté dans ces dernières visions de l'Apocalypse, où Dieu lui-même est présent, avec la foule de ceux qui sont à lui, où il essuie toutes larmes de leurs yeux, toutes leurs peines sont finies. C'est l'image du 11e chapitre d'Ésaïe. La terre sera remplie, parce qu'il y a une terre encore, c'est la nouvelle terre. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Et vous voyez cette image de plénitude. C'est ça la fin du mal. Voilà ce que je dirais en réponse à cette question. Et maintenant j'arrive à... deux autres questions, une question, disons, d'approfondissement théologique, de réflexion. C'est pas très facile, peut-être, mais je vais tenter d'y répondre, brièvement d'ailleurs. Et puis une autre question double de deux personnes, qui touche plutôt à notre actualité. Et là, je répondrai un peu plus longuement, mais je trouve ça plus difficile aussi. Hein. Que dire de cette liberté qui ne donne lieu qu'à un choix? Vous savez que j'ai souligné que la liberté, ce n'est pas de pouvoir dire oui ou non, c'est de pouvoir dire oui, comme Jésus lui-même. Alors, que dire de cette liberté? Je dirais que ce qui fait sa liberté, c'est la qualité de la relation à Dieu. En un sens, toutes les créatures, autres que l'homme et que les êtres célestes, les chiens, les chats, etc., disent oui à Dieu. Mais ne peuvent pas faire autrement. La qualité de leur oui est une qualité qu'on pourrait dire inférieure. Ce qui fait le propre de l'homme comme créature en image de Dieu, quasi fils dans sa création et fils par adoption de grâce en Jésus-Christ, c'est que sa dépendance à l'égard de Dieu, le oui qu'il dit à Dieu, est d'une autre qualité. Une qualité qui est associée à la communion, à la compréhension. L'homme a part à la sagesse de Dieu, il comprend, et donc il dit, oui, je te loue Seigneur et Père, de ce que tu agis comme tu le fais. C'est la prière de Jésus, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et intelligents, les a révélées aux enfants, je te loue Père, amen, oui. Donc il me semble que c'est dans la qualité de la relation, et j'ai dit filiale, quasi-fils, filiale, je crois que c'est aussi ce que nous apprend l'évangile de Jean au chapitre 8. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Celui qui est adopté comme fils, qui est comme fils dans la maison. Dans une grande maison, comme Jésus évoque dans Jean 8, une maison du monde du premier siècle, dans le système patriarcal de l'époque, le fils et l'esclave dépendent également du Père. Pour toute leur vie, ils dépendent du Père. Économiquement, juridiquement, etc. Le père, le fils et l'esclave obéissent également au père. Un fils obéit à son père. Mais le fils est libre, l'esclave ne l'est pas. Pourquoi? Parce que le Fils est le Fils, parce qu'il est en communion avec son Père, parce que entre le Père et lui, il n'y a pas seulement un rapport d'extériorité, et en un sens, il est un peu son Père, étant le Fils de son Père. Il est de la maison. Vous voyez ce que dit Jésus? Le Fils demeure toujours dans la maison, parce qu'il est de la maison. Donc la loi de la maison, qui est celle du Père, c'est la loi de son être, et il est libre. Alors que l'esclave n'y demeure pas toujours. L'esclave, on le vend, on le revend, etc. Il est un étranger dans la maison, et la loi du maître est une loi étrangère à sa nature, à son être. Oui. Vous voyez ce qui fait la liberté. Ce n'est pas de pouvoir dire non, concrètement, effectivement, c'est de dire le oui avec qualité filiale. Oui. Voilà comment je répondrai à cette question. Et maintenant, une grande question sur la définition du mal, mais sans doute aussi du bien, en notre temps. Je commence par la deuxième question. Vous considérez que le mal est la réalité injustifiable. Il s'agit donc d'une réalité relative liée aux circonstances, à l'époque, à la culture. Cela voudrait-il dire que ce qui hier était péché ne pourrait plus l'être demain? Et on pourrait, je pense, présenter la question aussi en disant injustifiable, mais aux yeux de qui? Par quels critères? Ce qui est injustifiable à une époque ne paraît pas l'être à d'autres, pour des hommes de générations différentes. Puis l'autre question, voyez, est assez proche de celle-ci. Au Moyen-Âge, c'était une structure morale enseignée par l'Église chrétienne que celui qui faisait le bien et vivait honnêtement serait récompensé d'une vie vertueuse et qu'il vivrait parce qu'il aurait la vie, je pense. Celui qui a posé la question me dit qu'il n'est pas francophone, alors je modifie légèrement la façon de l'énoncer. Vous avez parlé du mal, du choix mauvais, la tragédie de la situation humaine, l'exemple de Job, etc. Actuellement, la société a changé. Des phénomènes problématiques tels que le chômage, les universités, enfin je pense que c'est les troubles dans les universités, l'inadaptation de l'enseignement universitaire, ont paru, qui rendent cette morale fausse. On n'est plus certain du bonheur et d'avoir le bonheur en gardant l'ancienne structure morale. Malheureusement, la pensée continue cependant que cette structure reste bonne. L'Église n'a pas changé son enseignement. Cet enseignement est alors démodé. Pouvez-vous proposer une autre qui reflèterait la situation moderne? Donc voilà la question, vous voyez, qui est quand même liée à la première que j'ai lue, en ce sens que l'accent est mis sur la différence de situation et de conviction répandue dans la société quant au bien et au mal. Alors je commence d'abord par m'expliquer sur mon accent sur le mal comme injustifiable réalité. Je n'ai pas voulu procéder à la manière d'un mathématicien avec grande rigueur méthodique, parce que je pense que ce n'est pas possible. Effectivement, lorsque l'homme est prisonnier de son mal, du mal qu'il a choisi, qu'il est esclave du péché, pour reprendre l'expression de Jésus, sa vision se tord, se brouille, il ne voit plus les choses correctement. Et de manière plus ou moins accusée, il déforme les valeurs, il déforme les échelles de valeurs, et il peut très bien arriver à dire le bien mal et le mal bien. Il y a d'ailleurs, contre toute dialectique, un avertissement du prophète Ésaïe au chapitre 5 et au verset 20. J'ai failli le citer tout à l'heure, mais je suis passé plus vite. Malheur à ceux qui disent le bien mal et le mal bien. Et de ce fait, c'est vrai qu'on ne peut pas obtenir par simple consultation un accord sur ce qui est bien et ce qui est mal. C'est vrai que c'est seulement dans la lumière de Dieu qu'on voit les choses telles qu'elles sont. Et que tant qu'on ne l'a pas fait, on tâtonne plus ou moins dans la pénombre ou dans la ténèbre. Oui. Donc, je me suis servi d'une expression floue, un peu vague, injustifiable réalité. Parce que je sais, et par la Bible je le sais, mais aussi par l'expérience qui le ratifie, que malgré son égarement, l'homme ne cesse pas d'être une créature de Dieu, que Dieu, dans ce qu'on appelle sa grâce commune, qui maintient la vie, pour ce monde est un sursis, empêche le mal de produire tous ses effets, et que donc il reste, chez les humains, un certain sens, déformé certes, mais quand même, il reste comme un noyau qui est encore assez substantiel, et surtout, quand on ne considère pas les théories, mais les réactions premières. les théories universitaires, oui, elles peuvent proliférer monstrueusement comme des plantes élevées en serre, vous voyez. Et vous pouvez avoir des paradoxes horribles, abominables, proférés par les messieurs les plus distingués. Mais oui. Mais pratiquement dans la vie de tous les jours, vous avez des tas de gens qui, je prends ça comme illustration simplement, qui vous affirmeront, qui vous feront un éloge du mensonge. Je crois que Michel Foucault, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, a fait un éloge du mensonge. Il n'empêche que si vous lui dites un mensonge et puis qu'il s'en aperçoit dans la vie de tous les jours, dans la minute d'après, il va réagir très fort. Il aurait réagi très fort. Comme on a remarqué, des gens qui vous prêchent tout est absurde, irrationnel, etc., savent très bien gérer leur carrière et les finances des livres qu'ils publient. Hein, donc, quand on est près de la réalité quotidienne et des réactions spontanées, communes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de déformation, mais il y a moins de déformation. Et c'est pour ça que je me suis servi, comme en quelque sorte d'un levier, de ce sens que je sais encore présent du mal comme injustifiable réalité. Mais bien sûr, s'il fallait trouver une base scientifiquement tout à fait sûre, bien définie, claire, dès qu'on se mettrait à chercher, on faudrait chercher des philosophes, etc., qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça se déliterait. Et on aurait de base sûre qu'avec le témoignage de Dieu lui-même dans sa parole. J'en suis persuadé. Alors, à partir de ce témoignage de Dieu dans sa parole, que dire en réponse à la question numéro 1, surtout des deux que je traite maintenant ? Il me semble qu'il faut dire d'abord qu'il y a des constantes dans l'histoire humaine. Que l'image qu'on a fréquemment de nos jours, d'une remise en cause totale. Nous sommes dans un monde tout autre que celui de nos arrière-grands-parents. Que tout cela, c'est simplement faux, que c'est gonflé, que ça ne correspond pas à la réalité. Qu'il subsiste comme une armature commune à toutes les époques. C'est d'ailleurs bien pour ça que nous pouvons vibrer, être émus en lisant des textes de Platon des milliers d'années avant nous, que nous pouvons vraiment reconnaître des expériences que nous faisons quand nous lisons des auteurs très éloignés. Il ne faut pas croire que les transformations extraordinaires de notre environnement technique signifient que tout alors est changé. Nous sommes toujours quand même dans le même monde. Oui. Alors, dans notre coin de monde et notre époque de monde, il y a des changements, mais tout n'est pas modifié. Voilà le premier élément que je voudrais mettre en valeur. Et le deuxième, alors, c'est que Dieu, qui lui-même gouverne la diversité des temps et des moments et des situations culturelles, tient compte de cette diversité. Et c'est vrai que la sensibilité peut varier à l'égard de certains mots, de certaines formes de mal, et je dirais de façon légitime. Nous n'avons pas, nous en maintenant l'existence des constantes, à nier ce fait qu'il y a progrès à certains égards, régression à d'autres, qu'il y a des variations, et que, par exemple, la culpabilité encourue varie selon les époques. On voit très bien cela à l'intérieur de la Bible elle-même, puisque nous voyons que dans l'Ancien Testament, le divorce très facile, la polygamie, ont été tolérés par Dieu. C'est bien toléré. Les temps n'étaient pas mûrs pour une plus grande rigueur. Bon, ce n'est pas que la chose ait plu à Dieu ou que Dieu ait dit que la polygamie lui plaisait. Au contraire, il y a des indices dans le texte qui montrent que ce n'était pas selon son intention. Mais à cause de la dureté du cœur de l'homme, comme Jésus l'a expliqué, Dieu a toléré dans sa législation certaines choses qui ne sont plus tolérées dans l'Église, par exemple, à partir de la venue de Jésus-Christ. Donc, nous avons là, effectivement, une diversité qui peut être prise en compte. Et, bien sûr, lorsqu'il y a des problèmes radicalement nouveaux qui surgissent, et pour notre époque, il y a certains problèmes d'écologie qui sont, semble-t-il, vraiment nouveaux, parce que on est passé à une autre échelle. Oui. Et certains problèmes de bioéthique, parce que nos techniques sont capables de faire des choses qu'on ne pouvait pas envisager autrefois. Alors, il y a des adaptations à faire, des choses nouvelles à proposer, et je peux sympathiser avec la personne donc qui a écrit la question que j'ai lue tout à l'heure, lorsqu'elle se plaint que l'Église ne sait pas faire face à ce changement. qu'elle ne modifie pas son enseignement pour répondre plus directement aux défis du temps présent. Il s'agit de le faire en fonction de ces constantes révélées par l'Écriture sainte et du sens de l'histoire que l'Écriture sainte révèle. Mais c'est bien vrai qu'il ne s'agit pas de se figer non plus dans une simple répétition du passé. Voilà, c'est une réponse pour une très grande question, certainement insuffisante, mais pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas plus à dire. Monsieur le Président.